Alors, faut déjà savoir que je suis tombé dedans tout petit, quoi. C'est-à-dire que je suis né au pied de la Somme de vigne. Mes parents avaient déjà un petit vignoble, très petit vignoble, mais j'ai eu l'occasion, dans mon enfance, évidemment, d'apprendre un petit peu ce métier, si je puis dire, tout au moins de l'apprécier. À tel point qu'à l'époque, mes parents, d'ailleurs, ne souhaitaient vraiment pas que je fasse ce métier-là. Et moi, j'avais vraiment décidé que c'était ça qui me passionnait. Donc, évidemment, j'ai fait quelques études en conséquence, hein, niveau BTS. C'est un petit peu au-delà pour se spécialiser. Et ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir m'occuper d'un domaine réputé à Chinon en tant que régisseur avec mon épouse. Il s'est trouvé qu'il y a quelques années, des vignes de la famille se sont libérées. Et donc, à ce moment-là, on a décidé de voler de nos propres ailes. Et donc, nous sommes partis et nous avons créé notre domaine, évidemment, avec toute l'expérience que je pouvais avoir de par mon vécu, mais aussi de par l'esprit de se dire, on va s'exprimer pleinement soi-même, et c'est ça qui est hyper intéressant.
Vous parlez des études que vous avez faites. C'est quoi comme étude pour être expert en vin ou en
Alors,
tout cas être?
il y a plusieurs voies, et en France, il y a plusieurs écoles spécialisées. Moi, j'étais plutôt parti au départ, sachant que je ne savais pas vraiment. Alors, je travaillais à l'agriculture, j'étais plutôt orienté viticulture, mais ce n'était pas garanti d'avance. Donc, j'étais parti sur un brevet technicien agricole qu'on appelait général à l'époque, où on touchait plusieurs spécialités. Et après, j'ai fait une petite spécialité vitionneau, parce que c'était ça qui me passionnait, mais sans pour autant savoir où j'allais atterrir. Donc j'étais à même, effectivement j'ai eu la chance de m'occuper d'un vignoble, mais j'aurais pu très bien travailler dans une chambre d'agriculture, travailler dans un centre de gestion, travailler dans différents domaines, peut-être avant de revenir vers ma passion. Donc il s'est trouvé qu'effectivement les portes sont ouvertes assez facilement.
On reparlera du domaine de Noiret plus précisément en deuxième partie d'interview. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler des vendanges 2017?
Ah.
Comment elles se sont passées? Qu'est-ce qui a fait la particularité de cette année? On sait que les vins, c'est vrai, c'est très, très dépendant du temps,
Bien sûr,
notamment de la météo.
bien sûr.
Comment ça s'est passé cette année?
Ben, ça s'est passé que tout le monde doit se souvenir que le printemps a été plutôt sympa, et notamment début avril, on commençait déjà à manger en terrasse, et ça, c'était plutôt assez merveilleux. Très souvent, il y a un petit contre-coup et la nature ne nous a pas loupé parce que fin avril, autour du 26, entre le 26 et ouais, autour du 26 avril, il y a eu une vague de froid importante qui est arrivée et qui a fait beaucoup de dégâts. Elle a fait du dégât partout en France, voire même jusqu'à l'Italie. Donc c'est une vague de froid qui venait des pays scandinaves, très très épaisse et très froide, qui effectivement a grillé de nombreux bourgeons. Je dois dire, alors, contrairement à l'année dernière où on a vraiment subi énormément, je dirais que on a eu par chance uniquement partiellement des gels, donc sur des zones qui habituellement sont assez élevées et ne craignent pas trop. Donc c'est lié à une gelée noire qu'on appelle, avec une masse d'air froide et des courants d'air plus froids que d'autres. Donc comme l'air était sec, heureusement, une bonne partie des bourgeons ont été épargnés parce que quand on a un air sec jusqu'à moins 3, moins 4, on peut passer à côté. Par contre, il y a eu des courants d'air plus froids de moins 7, etc. Et là, ça a fait du dégât. Globalement, on peut dire qu'on s'en tire plutôt bien parce que, allez, on va dire, c'est quoi, 15-20% du vignoble qui a été touché globalement. Donc, il y aura du 2017 pour tous nos consommateurs. Et je peux vous dire que si vous regardez la suite après, on a eu un mois de juin, un mois de juillet estival très chaud, hein, à tel point qu'il était parfois pénible de travailler à l'après-midi parce qu'on avait des chaleurs incroyables. Un mois d'août correct et puis un mois de septembre qui s'est très bien terminé. Donc, le raisin a bénéficié d'une très belle maturité. On a des vins très riches, très souples, qui sont très agréables en bouche, hein, qui ont beaucoup de soyeux, avec des tanins très soyeux. Ça sera un vrai régal, on est très content du résultat. Voilà, hormis les vignes qui ont subi du gel, où là on n'en parle pas parce que la récolte n'existe pratiquement pas, mais pour tout le reste, c'est vraiment merveilleux ce qui est arrivé.
Il suffit finalement d'un ou deux jours de froid pour
Oui, il
ça.
suffit d'une matinée, enfin d'une température inférieure à moins 4 pour que tout soit cassé. Hein, c'est le bourgeon quand il est en pleine croissance, c'est bien sûr il est très vert et donc les cellules sont pleines d'eau et dès que les cellules se cristallisent, eh bien la cellule est éclatée et donc le bourgeon meurt. Donc c'est enfin, c'est une brûlure, c'est un peu on peut comparer ça un peu à une brûlure mais par le froid, si on peut dire. Voilà.
C'est d'ailleurs pour ça que le vin se cultive dans des endroits plutôt chauds, tempérés, avec
Oui, bien sûr.
une
Alors,
météo clémente.
voilà, un vin, il y a un tas de critères qui jouent. Alors, on est ce qu'on appelle dans nos régions axé sur des notions de terroir. Hein. Ça veut dire que la notion environnementale est très importante. Et effectivement, on ne plante pas n'importe où. On sait qu'il y a des zones qui sont plus à risque que d'autres, donc on évite ces zones-là. Mais parfois, Dame Nature nous fait des petites misères. Et même là, ce que je vous parlais pour 2017, ce qui a gelé, c'était plutôt des zones qui étaient rarement je livre, donc on maîtrise pas tout malgré tout.
On parlait donc du coup des vendanges, elles ont eu lieu quand exactement? Vous pouvez nous donner les dates ou en tout cas chez vous?
Il faut savoir que la Touraine, il y a un tas de cépages différents, il y a des cépages plus précoces que d'autres. Si on parle de la Touraine, appellation Touraine, les Sauvignons, ils ont commencé début septembre. Nous, on est au pays du Cabernet, hein, Cabernet Franc. Les vendanges ont vraiment commencé à partir du 25-28 septembre et se sont étalées jusqu'au 5 octobre quoi, à peu près. Donc ça c'est... C'était plutôt précoce, précoce.
Là aussi, il y a un délai pour ramasser le raisin. Est-ce qu'il faut le faire rapidement pour préserver finalement la bonne santé du raisin, la qualité?
C'est un fruit. Donc comme tout fruit, il faut le suivre de près. C'est-à-dire qu'on a plusieurs types de sols et plusieurs parcelles. Donc on gère à la parcelle. Effectivement, plus on approche du but fatidique, il faut arriver à une maturité tip-top, aussi bien au niveau qu'on appelle physiologique, c'est-à-dire que sucre, acide. Il faut qu'évidemment le raisin soit riche. Mais il y a également une autre maturité qu'on appelle dans notre jargon technique phénolique, c'est-à-dire c'est un peu la maturité des tanins. Le mot tanin parle peut-être à nos amis, mais tout au moins il faut avoir des belles maturités au niveau des peaux et au niveau des pépins pour avoir un vin de qualité et des tanins soyeux qu'on appelle qui soit agréable en bouche. Donc voilà, il faut, alors en fonction des types de sol, il y a des variantes pour ça et on suit ça au jour le jour. Et effectivement, quand c'est mûr, je dis pas que c'est le lendemain, mais c'est dans les 2-3 jours qui suivent qu'il faut absolument ramasser quoi. Voilà.
Alors du coup, j'imagine maintenant vous avez plein de raisins puisque ça date d'il y a un mois en fait, oui. les vendanges. Qu'est-ce que vous faites maintenant pour créer votre vin? Quelle est l'étape suivante à la création du vin après les vendanges?
Le vin, c'est une alchimie assez extraordinaire, naturelle. Hein, naturelle. Alors l'homme que nous sommes, moi, le vigneron que je suis, c'est d'être le plus en harmonie possible avec mon environnement. Alors ça commence à la vigne, hein, par rapport à la météo, donc apporter les bons gestes au bon moment pour que la vigne soit la plus belle possible et pour que le raisin soit le plus beau possible. Et après, arrivé au chai, on a effectivement une caisse à outils, si je puis dire, avec différents outils, maintenant, où on maîtrise parfaitement. Le point le plus important, c'est la maîtrise des températures, parce qu'on travaille avec des petites bêtes. Bon, notamment, au départ, l'objectif, c'est que ce soit les levures qui sont là à l'état naturel et qui ont un potentiel de multiplication et qui, elle, transforme le sucre en alcool, s'accapare au plus vite du milieu. Et ça, c'est très important de le favoriser. Donc, on apporte les conditions idéales pour que ces levures se multiplient et pour qu'elles fassent bien leur travail. Parce que après, en rouge, on a une autre fermentation qu'on appelle malolactique qui se fait avec des bactéries. Donc, l'objectif, c'est vraiment que les levures transforment tout le sucre en alcool pour ne pas que les bactéries l'utilisent pour faire de l'acide acétique, autrement dit du vinaigre. Et après, on peut faire travailler ces fameuses bactéries qui transforment un acide fort et l'acide malique en acide lactique qui donne plus de souplesse au vin et qui rend le produit. Donc c'est le suivi de toutes ces étapes-là, avec également une phase d'extraction, c'est-à-dire que nous, pour faire du vin rouge, on macère avec la peau, hein, c'est la peau qui donne la couleur. Quand vous pressez la graine de raisin, le jus est blanc. On peut faire du blanc avec un raisin rouge parce que nous avons des cépages à jus blanc. Et donc c'est la peau qui est dans la cuve qui libère tout doucement ses pigments et la couleur, et également les fameux tanins que je vous évoquais tout à l'heure. Donc on suit tout ce schéma pour dire voilà, on continue la macération avec la peau, on arrête en fonction des types de sol, il y a des variantes aussi. Donc ça, c'est notre métier. Donc là, en fonction de l'objectif cherché, eh bien, on va effectivement faire des macérations plus ou moins longues. Voilà, c'est notre travail. Et c'est le coup de patte du vigneron. Le coup de patte du vigneron, ça se passe à la vigne, mais ça se passe aussi au chai, en disant, ben voilà, je vais maîtriser les températures, je ne vais pas faire travailler mes levures à plus de tant de degrés. Moi, je vais vous dire 22, mon collègue va vous dire 25, et pourquoi pas, hein, après tout, c'est pas... Mais chacun a sa vision des choses, et c'est ce qui fait le coup de patte du vigneron derrière, et que nos amis consommateurs apprécient nos vins à travers le vigneron.
Le coup de patte du vigneron, c'est aussi le goût, puisque sans goût, finalement, le vin serait complètement différent, finalement, parce que j'imagine que vous le goûtez sans cesse, vous essayez d'affiner aussi, expliquez-nous.
On le goûte sans cesse avec modération.
Ah, évidemment, c'est vrai qu'il faut, le rappeler, on parle quand même de vin, donc à consommer avec modération.
Oui, oui, non, alors en fait, c'est de la dégustation, hein. Ça veut dire qu'on crache, autrement j'aurais la carte des vins sur le visage il y a longtemps. effectivement, on déguste, on suit toute l'évolution. Alors il y a des suivis au niveau des gradation des sucres, c'est par la densité, gustatif aussi, mais il ne faut pas s'imaginer qu'on est toute la journée en train de déguster nos cuves. On déguste une fois tous les deux jours en général, et c'est vraiment une petite gorgée, voilà, c'est juste une impression technique pour voir si tout se passe bien, et puis on suit tout ce travail par analyse également pour voir si tout va bien et tout se passe bien.
Jean-Max, je vous avais promis un petit quiz hors antenne, et je crois que c'est l'heure de ce petit quiz. Je mets le jingle et c'est parti.
Allons-y.
« Un petit quiz, évidemment, 100% vin. Je le répète, encore une fois, à consommer avec modération. Première question. En 2016, on consommait environ 42 litres de vin par an, par habitant en France.
Ouais.
À combien montait ce chiffre en 1975?
J'ai pas tout en tête, mais je vous dirais autour de 80-90 litres par habitant.
Ah, on n'est pas loin. 100 litres.
100 litres, ouais, voilà.
100 litres. Alors, le chiffre est quand même assez énorme. Ouais. Ça fait à peu près 1 litre tous les 3 jours, finalement, par habitant.
Bien sûr.
Ouais, c'est quand même assez dingue.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est passé d'une époque où le vin était ce qu'on appelait vin aliment. À la notion vin plaisir. Donc, effectivement, nos parents, le vin faisait partie de l'alimentation. On purifiait l'eau avec le vin.
Eh oui, oui, voilà, c'est ça. Deuxième question. Est-ce que vous savez à peu près en hectares la surface des champs de vignes en France?
Oula. Je vais vous dire non. Je vais vous dire des bêtises, donc je préfère pas. Je sais que sur la Touraine, c'est 10 000 hectares, etc. Mais je ne peux pas vous dire non.
10 000 hectares en Touraine.
Ouais.
En France, c'est 750 000 hectares.
Ouais, voilà.
Et pour donner un peu un repère à nos auditeurs, ça correspond environ à 1 million de terrains de rugby quand même.
Tout à fait.
C'est quand même une belle superficie consacrée.
Et si on ramène ça à la bouteille, c'est impressionnant.
Oui, évidemment, mais il faut aussi le dire. Évidemment, je ne vous apprends rien que le vin, c'est quand même une institution en France. C'est quand même vraiment un secteur qui pèse.
On est la référence mondiale encore aujourd'hui.
Et on est le plus gros exportateur de vin en termes de valeur, en tout cas.
Ouais, mais on risque de le perdre là, devant l'Italie, parce que les productions sont plus basses. Mais effectivement, on a été et on est très souvent en tête de peloton parmi les on est le premier, ouais, très souvent.
Troisième question, il y a environ 10 millions d'œnotouristes par an en France. Combien sont étrangers en pourcentage sur ces 10 millions? Vous pensez?
On peut améliorer ça énormément, mais je dirais à peu près 40%.
42%?
Ouais.
Bravo, 42% effectivement sont étrangers. Les chiffres que je cite viennent d'une étude de vin et société, donc une étude tout à fait sérieuse. Quatrième question, à quand date l'instauration du bouchon de liège moderne? Parce qu'en fait, le bouchon de liège était déjà utilisé chez les Athéniens qui l'utilisaient pour leur... pour leur, leur mixage et leur vin à l'époque. Le bouchon de liège moderne, c'est-à-dire celui qu'on voit...
Celui qu'on voit aujourd'hui, on va dire 18e siècle à peu près, environ, parce qu'il fallait aussi que la bouteille en verre soit là. Quoi. Donc le liège est arrivé derrière parce que c'est un produit naturel et qui est assez hermétique. On a essayé plein de choses avant avec des bouchons de bois, avec de l'huile, avec un tas de choses. Et voilà, je dirais, voilà, 18e.
Effectivement, c'est en 1728 environ, évidemment, c'est peut-être pas l'année près, mais... Il faut aussi rajouter qu'il y a le premier dépôt de brevet du tire-bouchon date de 1795 par Samuel Henschel. Voilà, parce qu'évidemment, qui dit bouchon en liège, dit tire-bouchon. Dernière question. En quelle année a été interdit le vin dans les cantines scolaires? Alors ça, c'est vraiment quelque chose que...
C'est un piège, mais à mon époque, j'ai quelques années et on ne buvait plus de vin. Je pense que ça doit dater de... Allez, moi je dirais juste 1935.
C'est plus tard. En 1956, c'est Pierre Mendès France que la mesure a été prise. Et figurez-vous que les enfants de moins de 14 ans à l'époque dans les cantines scolaires avaient le droit de boire un demi-litre de vin ou un demi-litre de bière. C'est incroyable, parce que 50 ans, enfin 60 ans plus tard...
On a du mal à penser ça.
Voilà, on a du mal à en penser ça, c'est presque un autre monde, quoi. C'est les enfants de moins de 14 ans, je le répète, donc c'est pas... Enfin, c'est assez troublant comme chiffre, mais en tout cas, heureusement qu'on a banni ça, en tout cas pour la santé des enfants.
Tout à fait.
Et ben voilà, vous en êtes très bien tiré sur le quiz. Beaucoup
j'ai
de bonnes
appris
réponses.
Des choses, c'est formidable.
Oui, ben j'imagine. Du coup, j'aimerais qu'on revienne sur le domaine, plus précisément le domaine de Noiret. Vous avez repris ce domaine en 2001, c'est ça?
Oui, on a commencé en 2001 à reprendre les vignes de la famille et on a développé après ensuite, tout à fait, oui, exactement.
Combien vous produisez de vin en quantité et quelle sorte de vin finalement vous produisez?
Alors, moi, je produis exclusivement de l'appellation AOC Chinon, hein, donc, qui a les trois couleurs, donc rouge, blanc et rosé. Et je produis les trois couleurs. Effectivement, c'est à base de Cabernet Franc et à base de Chenin, hein, donc pour le blanc, et Cabernet Franc pour le rosé et le rouge. Voilà, mon domaine comprend aujourd'hui 16 hectares. Et donc, ça correspond, grosso modo, pour nos amis auditeurs, à peu près à 80-85 000 bouteilles par an.
Ah oui, donc sur les 750 000 hectares, on peut faire le calcul, ça fait...
Ça chiffre.
Ça chiffre en termes de bouteilles. Vous parlez, alors c'est ce que j'ai vu sur votre site internet, il y a trois couches ici de terre, une argilo-siliceuse, ouais. Une grave et ouais. Une calcaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces différences entre ces trois
terres ? Alors, je vais essayer d'être assez simple. Et il faut s'imaginer que bon, tout le monde connaît notre fameux tufau, la pierre blanche dont on a construit nos châteaux et nos maisons. Et on est
fiers. Qui est propre à la région.
Voilà, qui est propre à la région, qui apporte une belle lumière. Eh bien, cette roche est une roche sédimentaire. Ça veut dire qu'il y a un peu plus de 150 000 ans, on était... en milieu marin, on était sous la mer, où s'est créé ces formations calcaires. Et donc en haut s'est déposé ce qu'on appelle les argiles, les sénoniens, donc ce sont des argiles à silex qui sont posées, et après le niveau des mers a baissé, et donc les rivières, alors pour nous à Chinon c'est la Vienne, eh bien, a creusé la vallée et a fait apparaître des coteaux calcaires, et elle a déposé ensuite des graves, parce que vous imaginez une rivière qui creuse une vallée comme ça, elle entraîne des micas et des sédiments siliceux qui viennent du massif central et qui se sont déposés près de son lit. Voilà, donc on a vraiment trois types de sols, les argiles à silex sur les points hauts et les coteaux calcaires, donc on a plusieurs types de calcaire parce qu'il y a plusieurs périodes, et puis les graves qui sont tout près du lit de la rivière.
Et ça, du coup, ça influe aussi sur la qualité du vin,
oui,
et sur le...
Bien sûr, ça veut dire qu'un végétal, la vigne ne se comporte pas de la même façon sur un calcaire, sur une grave et sur un argile, parce que d'abord le système racinaire est implanté différemment, et puis on est sur des sols, je dirais, au niveau agronomique qui sont différents. Le calcaire, par exemple, c'est alcalin, on est sur des sols très très alcalins, alors que les graves, on est sur des sols acides, donc évidemment le comportement végétal est différent. Donc le but de l'homme, c'est d'être, comme je disais tout à l'heure, le plus en harmonie possible et d'adapter les plus beaux gestes possibles par rapport à tout cet environnement. Donc il y a le sol, mais il y a aussi la climatologie, etc.
Vous parliez tout à l'heure du label AOC Chinon. Oui. Vous en faites partie, du coup.
Oui.
Depuis quand ? Est-ce que c'est quelque chose qui est venu naturellement, directement, parce que du coup vous êtes proche de Chinon ?
Oui, alors moi, non, c'est simplement que je suis dans la zone. Et puis c'est une passion aussi de faire un produit qui a une forte originalité. Dans la notion AOC, appellation, c'est une zone qui a été bien déterminée. L'AOC chinois date de 1937. Mais bien avant, nos parents avaient remarqué que ces deux cépages, mais notamment le Cabernet Franc, se comportaient particulièrement bien à certains endroits, mieux que d'autres. Hein. Donc c'est comme ça qu'on a déterminé une zone, donc une appellation. Donc ça veut dire qu'il y a une zone géographique, pratiquement, je ne dis pas au mètre près, mais si pratiquement, qui est bien déterminé, où on peut revendiquer l'appellation, avec une climatologie très particulière, ce qui donne un produit original, hein, d'où le terme appellation d'origine, donc ça donne une originalité, ce qui veut dire qu'un Cabernet Franc à Chinon et un Cabernet Franc en Anjou, vous prenez les deux mêmes cépages, ça donne deux vins complètement différents. Donc l'aspect environnemental est très important. Et contrôlé, parce que pour avoir ce label, eh bien, il y a un cahier des charges commun à tous les vignerons qu'ils doivent respecter. Donc ça, il y a à la fois des rendements maximum, des types de taille, des densités, enfin il y a tout un cahier des charges environnementales maintenant, hein, bien sûr, que l'on respecte pour pouvoir revendiquer ce label. Donc effectivement, c'est une notion d'excellence entre parenthèses. Et quand on est vigneron, on a la passion de faire le plus beau vin par rapport à l'endroit, ce qu'on appelle dans notre jargon nous la gueule de l'endroit, et ce qui donne cette particularité. Donc voilà.
Vous devez aussi respecter un autre cahier des charges puisque vous avez le label biologique.
Oui, bien sûr, ça c'est autre chose, ouais.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer du coup la réglementation qu'il y a autour de ce label-là ?
Eh bien, le label bio, c'est contrôlé par des organismes complètement indépendants. Moi, il y en a deux ou trois en France. Moi, c'est Écocer. Beaucoup connaissent cet organisme qui vient nous contrôler. Donc, c'est quand on revendique ce label, enfin oui, c'est un label aussi, c'est qu'on s'engage à n'utiliser aucune molécule chimique. Donc, évidemment...
Pas de pesticides,
Pas de pesticides, pas de désherbants, que des produits d'origine naturelle. Ce qui, évidemment, implique beaucoup plus de travail. Mais c'est le respect aussi d'un produit. Et je dis souvent, on peut très bien vivre sans boire du vin, même si c'est difficile. Mais autant qu'il soit le plus entre parenthèses, le plus propre possible, c'est-à-dire autant qu'on ait un plaisir vraiment partagé, et en sachant que si on consomme ce vin, eh bien, il est vraiment indemne de tout résidu. Bon, même si on ne peut pas garantir 100% par rapport à un environnement plus général, mais au moins être le plus propre possible. Ça, c'est très important. Et dans ma philosophie, c'est très très important.
Au niveau du soufre, des sulfates...
Des sulfites.
Des sulfites, ouais. Je me trompe toujours. Ouais. Des sulfites, est-ce que vous avez le droit aussi d'en utiliser avec le label biologique
oui,
ou pas?
Oui, oui. La réglementation le permet, mais à des doses beaucoup plus basses que dans les conventionnels. Mmh. Je peux citer un exemple. En conventionnel, la dose maximum, c'est 250 mg par litre. En bio, c'est 100 mg par litre. Mais je peux vous dire qu'on est capable, et enfin c'est mon cas, on travaille largement en dessous, sans problème. Quoi. Ça pose pas de soucis particuliers. Alors dire le 0,0, c'est un peu risqué, parce que l'évolution naturelle du vin, c'est le vinaigre. Hein. Donc après, il faut maîtriser différents paramètres. C'est notamment avec le réchauffement climatique, on a des vins qui sont de moins en moins acides, où le milieu bactérien est de plus en plus à l'aise. On peut vite dériver vers des déviantes. Donc moi, je suis pas un fada, mais je mets un minimum de soufre juste à la mise en bouteille, juste pour éviter cette évolution.
Est-ce que vous pouvez nous décrire au goût, à l'odeur, peut-être même au visuel, vos vins? Alors évidemment, on est à la radio, donc difficile de se faire une idée, mais est-ce que vous pouvez nous décrire la spécificité de vos vins?
Alors moi, j'ai je recherche beaucoup la notion aromatique. Hein, donc c'est ça qui m'intéresse énormément, avec une notion structure en bouche, évidemment, derrière. Alors donc, en fonction des types de sol, ça donne des vins de structures différentes et d'arômes un petit peu différents. Mais je suis très, très sensible à la notion aromatique. On est, sur mes vins, on est très souvent entre le fruit rouge croquant, donc par exemple cerise noire fraîchement cueillie, mais on va sur d'autres cuvées, sur des notions petits fruits noirs, petits fruits des bois. Et encore sur une autre cuvée, on va sur des notes plus cacaotées, plus épices, plus... voilà, donc il y a des variantes. Et ça, effectivement, c'est très intéressant d'extraire de façon subtile et de façon fine. Et vous savez, enfin, je ne sais pas si vous savez, mais les vins de Loire ont cette particularité, c'est qu'ils ont la chance d'avoir une belle palette aromatique et d'avoir une certaine fraîcheur, ce qui fait qu'ils se marient avec une cuisine relativement large, jusqu'à des plats asiatiques, etc. On a vraiment cette chance. Ce que nous envie maintenant des collègues du Sud, parce qu'ils ont des vins qui sont beaucoup plus alcooliques et beaucoup plus lourds. Et leur souci, c'est de trouver cette fraîcheur que nous avons en Loire. Et ça, c'est une grande, grande chance.
Et c'est lié à quoi, justement, cette fraîcheur ?
Eh bien, c'est lié au positionnement géographique par rapport à la climatologie. Hein. Évidemment, on est plus au nord qu'à Carcassonne ou ailleurs. Et donc, avec le réchauffement climatique, effectivement, cette fraîcheur, elle nous est indispensable, parce que c'est ce qui vous donne... C'est un super aromatique, donc c'est ce qui permet de vraiment, c'est un vrai support. Et puis en bouche, de donner une certaine appétence au vin, une digestibilité. Ça veut dire que quand vous dégustez un vin de Loire, vous en buvez un verre, deux verres, trois verres, ça vous pose pas trop de problèmes. Quand vous êtes, je vais prendre l'extrême, par exemple, quand vous buvez du Porto, quand vous avez bu un verre, deux verres, votre palais commence à vous dire stop, je suis saturé et j'en veux plus, quoi. Et donc ça, c'est vraiment important. Alors c'est pas pour autant qu'il faut rentrer dans l'excès, bien sûr, mais au moins on a des vins qui sont très digestes. Et ça, c'est très important. On peut dire la digestibilité ou la buvabilité. Hein, voilà. Et ça, c'est génial.
Vous participez, alors le domaine de Noiré plutôt pour être précis, participe au salon Vin et Terroir le 25 et 26 novembre. Est-ce que jusque-là j'ai juste?
Vous avez juste, ça
bon, va. Très bien. Pourquoi déjà assister à ce genre de salon et de terroir finalement, pour mettre en avant vos produits?
Oui, bien sûr, on fait plusieurs salons dans l'année, etc. Le but, c'est évidemment de faire connaître nos vins, de faire connaître notre région. Il ne faut pas oublier qu'on est aussi des ambassadeurs de la région, et nos vins sont liés à une histoire, sont liés à une, comme je disais tout à l'heure, à une géologie, à tout un... Et donc c'est ça, donc on est aussi ces ambassadeurs-là. De notre domaine, bien sûr, mais aussi de notre région et de notre savoir-vivre. Et c'est important de le communiquer et de l'exporter, un petit peu entre parenthèses. Donc le salon, ça permet de vous faire connaître, vous, évidemment, individuellement, mais ça fait surtout permis de faire connaître l'appellation, de faire connaître la Touraine, de faire connaître la Loire en général. Et évidemment, il y a beaucoup de consommateurs qui, aujourd'hui, le monde du vin est assez complexe, donc il faut expliquer, et je crois que ça fait partie de notre rôle, d'aller toujours expliquer, d'aller toujours, je dirais, envier nos vins parce qu'ils le méritent, et parce que nos consommateurs sont aussi sont à la recherche de connaissances par rapport à tout ça, hein, donc c'est très important.
En tout cas, toutes ces informations, on peut les retrouver sur votre site internet, domainedenoiret.com.
Tout à fait.
J'ai une dernière petite question à vous poser. Alors, j'ai longtemps hésité à vous la poser. Votre vin préféré, quel est-il?
C'est une question qu'on me pose parfois assez souvent, effectivement. Bah,
c'est ouais. vrai que, vu que vous êtes expert et que voilà.
Mais
c'est...
mon vin préféré de chez moi, vous parlez ou de, en général dans...
Les deux. De chez vous, côté local, régional.
Ouais, moi, au niveau de mon domaine, je vous parlais qu'il y avait une certaine diversité au niveau de mes vins. Je ne bois pas le même vin en été qu'en hiver. Donc, de même que nos amis consommateurs ne consomment pas la même chose en été qu'en hiver. Quand il fait chaud, vous allez plutôt avoir envie d'un vin, on peut dire rosé, avec un petit peu d'acidité, un peu frais. Également des rouges tendres qui sont très aromatiques, parce que vous avez plutôt besoin de cette fraîcheur. L'été, vous êtes plus apte à boire un jus citronné, une boisson citronnée un petit peu acide. Et l'hiver, vous allez aller plus vers des boissons chaudes et des boissons sucrées un peu en général. Donc voilà, donc je ne bois pas le même vin en été et en hiver. Et après, en fonction de la cuisine, évidemment, on adapte aussi. Après, le meilleur vin, je crois que c'est une éternelle découverte. J'ai eu la chance de déguster des très grands vins dans ma vie, mais je ne crois pas que j'en ai fait le tour. Et heureusement, de toute façon, je n'en ferai jamais le tour. Mais j'ai aujourd'hui beaucoup de plaisir sur certains vins du Côte-du-Rhône, entre autres. J'aime beaucoup la Syrah, qui est un cépage assez intéressant pour moi. Mais j'ai eu l'occasion de goûter des grands Bordeaux aussi. Et en fait, qu'est-ce que c'est que avoir un vin préféré, c'est par rapport aussi à une ambiance, par rapport à un moment donné. Et peut-être qu'il y a tout ça qui joue. Quoi. Ça veut dire quand vous êtes bien dans votre peau et dans un bel endroit, eh bien peut-être le meilleur Riesling que j'ai bu, c'est devant la cathédrale de Strasbourg. Voilà.
ah oui, c'est vrai que ça fait tout de suite un peu plus rêver.
Voilà, c'est parce qu'on baigne dedans. Quoi. Donc il y a plein de moments comme ça. Et je crois qu'effectivement, ça laisse une belle mémoire. Mais il y a plein de choses à découvrir. Mais voilà.